Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Chers auditeurs de Radio Présence Lourdes-Pyrénées et de Radio La Pourdiratea, bonjour à tous. Nous accueillons notre évêque, Monseigneur Marc Ayé. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Bonjour Violaine Ricourt-Dumas.
Bonjour.
Depuis notre dernière émission, il s'en est passé des choses puisque nous avons un nouveau pape. Et d'ailleurs, il y a le drapeau du Vatican qui flotte sur la façade de l'évêché. Alors, quelle en est la raison, Monseigneur Ayé?
Ça doit être une petite fantaisie, comme il y a des hampes et qu'il y avait quelqu'un dans la maison qui avait un drapeau du Vatican. Il m'a proposé le match, je lui ai dit pourquoi pas, c'est l'occasion d'accueillir le nouveau pape qui vient d'être donné à l'Église.
Alors vous êtes déjà exprimé sur notre antenne, sur nos antennes, à l'occasion donc de l'élection du pape Léon XIV le 8 mai, vous êtes exprimé sur nos antennes. Alors qu'est-ce que vous souhaitez souligner depuis un mois que nous avons ce nouveau pape?
Ben, il y a beaucoup de choses, c'est vrai que l'avènement d'un nouveau pape est toujours un événement, en effet, qui est planétaire, on pourra dire, qui a donc été très suivi, comme on le sait, par les médias du monde entier. Et puis après, il y a toutes les premiers pas qu'il pose. Il faut s'imaginer d'ailleurs que le pape qui est élu commence tout de suite son ministère. Il ne prend pas un temps de congé, de vacances pour dire au revoir aux siens. Ben, lui, il était déjà à Rome depuis 2 ans, mais tout de suite, il endosse la charge. Il reçoit ce charisme pétrinien qui fait qu'il est quand même transformé en lui-même et aussi par sa fonction. Et il a tout de suite, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'avec beaucoup de naturel et en même temps beaucoup de simplicité, il habite cette fonction du successeur de Pierre d'une manière assez évidente. Quoi. Voilà, très naturellement, il est devenu le successeur de Pierre est reconnu comme tel par tous ses pères, ceux qui l'ont, ses pères cardinaux au départ, qui l'ont élu, et tout de suite, il habite sa fonction, voilà, avec beaucoup, encore une fois, de je trouve, de grâce, de naturel. Et bon, comme vous savez, le nouveau pape est d'abord intronisé, si je puis dire, enfin c'est le commencement officiel de son ministère pétrinien par une grande célébration sur la place Saint-Pierre. C'était le dimanche qui a suivi, pas suivi immédiatement, mais un peu après.
Le 18 mai.
Où il reçoit le pallium, qui est l'insigne des archevêques, et il reçoit l'anneau du pêcheur, qu'il a fait faire particulièrement, qui représente d'ailleurs Pierre lançant les filets. C'est une parabole de l'évangile de Jésus au chapitre 13 de Saint Matthieu, mais qui correspond à cette mission que Simon, Pierre, a reçue de Jésus après la première pêche miraculeuse, « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Et je remarque d'ailleurs que dans ces prédications, en particulier aux familles et aux nouveaux prêtres qu'il a ordonnés le samedi 31 mai, il parle beaucoup de pêcher l'humanité d'aujourd'hui, de lancer les filets pour pêcher l'humanité d'aujourd'hui. Bon, il les arrachait aux puissances du mal et de la mort, a-t-il dit, et favoriser la rencontre avec le Christ, ou par la rencontre avec le Christ. Moi, ce qui me frappe, à part ces événements officiels, la prise de possession de sa charge, il est allé ensuite visiter la basilique Saint-Paul hors les murs, qui a été bâtie sur le tombeau de Saint-Paul. Il est allé, évidemment, prendre possession de sa cathèdre d'évêque de Rome à la basilique Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape et qui est la mère et chef de toutes les églises du monde. Et il est allé visiter aussi la basilique, la quatrième basilique majeure, qui est Sainte-Marie majeure, où il était déjà allé se recueillir sur la tombe de son prédécesseur, le pape François, et il est allé là officiellement pour saluer l'icône de la Vierge Marie, Salus Populi Romani. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement de ce qui m'a frappé? C'est un pape qui est pacifié et qui est très apaisant.
Contrairement à François?
Je ne fais pas de comparaison. Chaque pape est... et a été choisi par le Seigneur pour le temps qui convient. Je pense que c'est vrai que l'Église est quand même pas mal traversée par des tensions, des divisions. On a parlé de divisions dans le diocèse, mais je crois que c'est une chose qui est assez générale dans l'Église. ce sur quoi ont porté beaucoup de conversations des conversations générales, autant qu'on puisse le savoir, parce que ça transpire toujours un peu. Les cardinaux sont beaucoup inquiétés des divisions, des tensions, des affrontements au sein de l'Église. Et donc, je crois que ça a été un des éléments majeurs. Et on voit bien que ce pape parle beaucoup d'unité. Hein. C'est un leitmotiv. D'ailleurs, sa devise, comme on l'a déjà dit, hein, qui est tirée d'un commentaire d'un psaume, du psaume 127 de saint Augustin, qui est son mentor, si je puis dire, son père spirituel, mais qui était de l'ordre de saint Augustin, c'est « in illo uno unum », c'est-à-dire « dans le Christ qui est un, soyons un ». Et il insiste beaucoup sur cette unité dans la diversité des membres, et je pense que c'est un pape qui cherche à monter des ponts entre toutes les différences, les diversités au sein de l'Église, et c'est vrai que c'est très, très apaisant, voilà. D'ailleurs, il a commencé sa première apparition sur le jet de Saint-Pierre après son élection, c'était de redire la parole de Jésus ressuscité. La paix soit avec vous, hein, c'est la paix qui vient du Christ, c'est l'unité qui se fait dans le Christ. On voit que tout son message, pour l'instant, me semble très christocentré, très théocentré aussi, et il nous rappelle des choses très essentielles et très fondamentales de la vie chrétienne.
Alors, beaucoup d'observateurs ont relevé aussi qu'il mettait les ornements liturgiques que François avait un peu abandonnés. C'est un signe ?
C'est un signe, je ne sais pas. Le pape François avait une certaine originalité, ça c'est sûr, qui était connu de tous. Déjà, il était jésuite, et jamais aucun jésuite n'avait été pape. Et comme disent certains, les jésuites, bah, ils gouvernent de manière un peu militaire, comme saint Ignace de Loyola. Donc il avait aussi ce tempérament un peu autoritaire, bon, qui a marqué aussi pas mal les gens qui l'ont côtoyé, entouré. Voilà, il avait sa personnalité, mais c'est là où il faut accueillir la personnalité de chacun. Alors c'est vrai que ce pape Léon XIV bah, se moule davantage dans une fonction qui ne nous appartient pas, qui ne lui appartient pas et qui le précède. Et il a repris bah, tout simplement les... Je crois que quand il est arrivé dans la salle des larmes, d'après le témoignage d'un de ses cérémoniaires, il s'est tourné vers le cérémoniaire tout de suite et il a dit « Que doit faire le pape ?» Le cérémoniaire lui a remis la mosette traditionnelle, la couleur rouge hein, qui est la couleur du pape, la couleur du martyr, hein, du don de soi jusqu'au martyr, et puis l'étole traditionnelle de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et voilà. Et je vois qu'il la remet dans toutes les basiliques qu'il a visitées. Ben, il la met quand il a rencontré les délégations gouvernementales après la messe sur la basilique Saint-Pierre le 18 mai. Ben, il l'avait. Quand il a rencontré le maire de Rome, où il a répété cette parole qui m'est si chère d'ailleurs, à moi-même, parce qu'elle marque mon épiscopat depuis le début, de saint Augustin qui dit « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien ». Et il a dit au maire de Rome « Eh bien, je peux dire que avec vous, je suis romain ».
Et puis, donc, il s'est assez vite adressé à la France. Je crois qu'il a déjà nommé des évêques en France. Et puis, il s'est adressé à la conférence des évêques de France, c'était le 28 mai, dans une lettre pour le centenaire de la canonisation de Sainte Thérèse et de deux autres saints. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cette lettre qui vous est adressée ?
Oui, ben c'est vrai qu'on est très ému hein, de recevoir parmi les premiers actes de ce pontificat une lettre qui est spécialement adressée aux évêques de France et à travers eux, à tout le peuple de Dieu qui est en France. Et en fait, il a choisi pour occasion de ce premier message adressé à la France le 100e anniversaire de la canonisation de trois grands saints français, saint Jean Eudes, au XVIIe siècle, hein, l'apôtre du cœur de Jésus et de Marie. Et il cite d'ailleurs là, dans sa lettre le pape Léon, la lettre encyclique d'Ilexit Nos sur le Sacré-Cœur du pape François, qu'il appelle d'ailleurs comme son testament, hein, c'est le testament du pape François, et puis saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, au XIXe siècle, et sainte Thérèse, enfant Jésus. Hein, donc ce sont des saints très importants dans l'histoire de la spiritualité en France, et encore assez récente, et il nous appelle à célébrer ce 100e anniversaire avec un relief particulier, en nous disant que eh bien, ils sont capables de raviver l'élan missionnaire en France à 100 ans après, ou comme il le dit, la pertinence du message de ces papes est toujours très actuelle pour de ses saints, pardon, est toujours très actuel pour relever l'ampleur des défis qui se présentent à la France aujourd'hui. On est très touché parce que quand il parle de Saint Jean Vianney Crudars et Saint Jean Eudes, il souligne l'importance des vocations sacerdotales en disant que les jeunes, pour ces saints peuvent susciter dans la conscience de nombreux jeunes le désir enthousiaste, le courage de répondre généreusement à l'appel, alors que le manque de vocation se fait cruellement sentir dans vos diocèses et que les prêtres sont de plus en plus lourdement éprouvés. Et il profite de cette occasion pour remercier tous les prêtres de France pour leur engagement courageux et persévérant et qu'il souhaite vraiment leur exprimer sa paternelle affection. Vous voyez, les prêtres ont besoin d'être aimés aussi. Et parfois, étant donné les scandales qui traversent l'Église, ils ne se sentent pas toujours très aimés. Et le pape tient à leur manifester sa paternelle affection. C'est aussi un signe. C'est vrai que la France s'est sentie un petit peu moins aimée, on va dire, par le Saint-Siège ces dernières années. Et vous savez bien qu'il y a toujours eu un petit mal-être par rapport au pape François qui a toujours précisé que quand il venait à Marseille ou à Strasbourg ou encore ce qui ne venait pas en France. Là, peut-être que c'est un petit signe par lequel le pape Léon XIV dit à la France « je vous aime ». Et il dit aussi, moi j'ai trouvé ça très beau, « j'invoque l'intercession de Saint Jean Eudes, de Saint Jean Eudes, de Saint Jean-Marie Vianney, de Sainte Thérèse Enfant Jésus et de la Sainte Face pour votre pays et pour le peuple de Dieu qui pérégrine courageusement sous les vents contraires et parfois hostiles de l'indifférentisme, du matérialisme et de l'individualisme. » Et il appelle la protection de notre puissante patronne, Notre-Dame de l'Assomption, sur la France. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappé, quand il parle des saints en question, il dit « Les saints n'apparaissent pas spontanément, mais par la grâce, surgissent au sein de communautés chrétiennes vivantes qui ont su leur transmettre la foi, allumer dans leur cœur l'amour de Jésus et le désir de le suivre. » Comme s'il voulait nous rappeler que la grande vocation, la grande mission d'une communauté chrétienne, c'est vraiment de transmettre la foi, c'est d'allumer dans le cœur des fidèles l'amour de Jésus et le désir de le suivre. Voilà, je crois que c'est rappeler des choses fondamentales, et en tout cas, c'est avec une grande action de grâce que les évêques de France ont reçu ce message.
Alors, Monseigneur Ayer, dans un précédent entretien, vous nous avez dit que vous aviez pris rendez-vous avec celui qui était le cardinal Prévost. C'était à la fin de l'année, je crois, de l'année dernière. Est-ce que vous irez voir le pape cet été avec les jeunes ?
Ah ben oui, bien sûr. Je serai déjà au jubilé des prêtres, des séminaristes, des prêtres et des évêques, la dernière semaine de juin. Et donc nous serons heureux de rencontrer notre nouveau pape, pasteur universel. Et puis j'accompagnerai le jubilé des jeunes aussi, du 24 juillet, je crois, au 7 août.
Donc vous ferez tout le jubilé des jeunes.
On va faire tout le périple, voilà.
Parce qu'il y a un certain nombre de villes qui seront...
Oui, on va aller à Pavie, sur la tombe de Saint-Augustin, c'était déjà prévu avant l'avènement d'un pape augustinien. Nous irons évidemment à Rome, passer ces jours de jubilé, avec la canonisation déjà annoncée du bienheureux Pier Giorgio Frassati, et peut-être qu'on saura très bientôt... lors du consistoire extraordinaire que le pape va convoquer, si la canonisation de Carlo Acutis aura lieu en même temps, à l'occasion du jubilé des jeunes. Puis ensuite, on reviendra par Assise, où nous nous recueillerons sur la chasse de Saint Carlo Acutis, et puis à Turin, où nous rencontrerons normalement la nièce de Pier Giorgio Frassati.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Monseigneur Marc Ayer.
Radio Lapourdi, Iratia.
Monseigneur Ayer, nous vous retrouvons pour cette émission diffusée sur Radio Lapourdi, Radio Présence. L'actualité dans le monde, c'est bien sûr la guerre en Israël et puis cet appel des responsables religieux chrétiens, c'était le 26 mai dernier, pour la paix. On a parlé du pape Léon XIV dont les premiers mots étaient pour la paix et c'est vraiment le mot actuel en ce moment.
Oui, et puis on sait en effet que le pape a été élu le 8 mai hein, alors qu'on célébrait le 80e anniversaire de la libération, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Donc oui, c'est important, et d'ailleurs le pape ne cesse pas dans ses Regina Coeli, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, de faire des appels particuliers à la paix dans le monde, surtout par rapport aux conflits présents, donc c'est non seulement la guerre en Ukraine, le pape Léon XIV d'ailleurs s'est offert pour faire un pont, puisqu'on est là pour faire des ponts, pontifex, ça veut dire faire le pont, une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Alors officiellement, on sait qu'ils ont dit, deux pays orthodoxes ne vont quand même pas se réunir sous l'égide d'un pape catholique. Ceci dit, il y a quand même eu, à Rome, des négociations pour la paix en Ukraine. Et puis, les responsables religieux chrétiens en France, hein, ont en effet fait un communiqué le 26 mai dernier pour la paix à Gaza, qui reste quand même un endroit assez dramatique, où il y a des innocents, hein, qui trinquent, mais qui trinquent aussi à cause d'un groupe terroriste, le Hamas, qui souvent se sert d'eux comme de boucliers humains, empêchant d'ailleurs parfois les convois humanitaires d'arriver, puis Israël, qui, en voulant éradiquer le terrorisme de Hamas, sans doute qu'il y a des effets collatéraux, hélas, de la guerre qui touche des populations civiles, et donc c'est une situation qui est absolument dramatique, et pour laquelle on a l'impression qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et
il y a quand même le non-respect par Israël, qui est quand même une démocratie, du droit international.
Le non-respect du droit international, c'est à la fois Israël et c'est à la fois le Hamas, hein, qui empêche, encore une fois, les populations civiles d'être nourries par les convois humanitaires qui ne sont pas empêchés par Israël. C'est très compliqué, hein. On ne peut pas avoir une... Nous, vu de loin, on peut avoir une conception binaire dans un sens comme dans l'autre. C'est beaucoup plus compliqué que ça, je pense. Et d'ailleurs, la déclaration des responsables religieux, comme vous l'avez vu, est extrêmement prudente, parce qu'on n'entre pas dans un conflit dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants, sauf à avoir des idéologies particulières, d'un côté comme de l'autre. Mais le communiqué de presse est à la fois un cri au nom de ceux qui souffrent dramatiquement dans cette bande de Gaza, et en même temps reste extrêmement prudent, ce qui est logique. Hein. Il réaffirme que les otages doivent être libérés sans condition et que les corps des défunts doivent être remis à leurs familles afin que celles-ci puissent les inhumer dignement. Ils font leur le cri de ceux et celles, enfants ou adultes, qui souffrent de la faim, qui manquent de toit et de sûreté, qui réclament que les enfants et les jeunes puissent étudier en toute sérénité. Il appelle les responsables politiques de tous bords à agir pour une paix réelle et durable, en réaffirmant que le respect du droit international, notamment humanitaire, est une composante nécessaire de la justice. Donc il ne cherche pas à nommer des coupables. Hein. Les coupables sont toujours d'un côté comme de l'autre, tous ceux qui laissent libre cours à la violence pour régler des conflits qui durent depuis, hélas, des décennies.
Autre sujet d'actualité en France en ce moment, c'est la fin de vie. Bien sûr, vous avez publié un communiqué sur ce sujet. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous nous dites dans votre communiqué?
Alors, je pense que c'est évident, hein, que vous avez vu aussi que la Conférence évêque de France, par son conseil permanent, s'est prononcée quelques jours avant ce vote solennel à l'Assemblée nationale, et en même temps invitant de manière assez officielle les chrétiens à écrire à leurs parlementaires, ce que beaucoup ont fait. Ce que je noterai, c'est que, bien sûr, on est bien d'accord pour dire que cette proposition de loi, qui a été votée en première lecture, hein, à l'Assemblée nationale, est une vraie rupture anthropologique. C'est une loi qui est plus permissive que toutes les autres et qui donne finalement le droit, au nom de la liberté absolue, à chacun de se donner la mort dans les conditions qui sont extrêmement ouvertes, malgré les promesses de garde-fous qui ont vite sauté au fur et à mesure des discussions, et d'avoir la possibilité de donner la mort à quelqu'un, soi-disant pour abréger sa souffrance, au nom d'une miséricorde fallacieuse, comme disait déjà Saint Jean-Paul II. Mais ce que je note quand même, c'est que ce vote n'a pas été aussi massif qu'on aurait pu penser, et comme l'ont remarqué les évêques de France dans une petite analyse qui nous a été envoyée après ce vote, dans un projet semblable en 2021, 84% des députés avaient voté en faveur d'un projet de loi. Ici, c'est 54%. C'est-à-dire que vous avez 304 députés qui ont voté pour ce projet de loi, 199 quand même qui ont voté contre, et 57 qui se sont abstenus. Ça veut dire que, moi je pense que le travail de sensibilisation, pas seulement de l'opinion, mais des législateurs, accompli par beaucoup d'associations comme Alliance Vita, comme la Fondation Le Jeune, mais aussi un nombre très important d'associations de soignants qui n'ont pas été entendues et qui sont en grande majorité contre ce projet de loi, des psychologues et aussi des handicapés eux-mêmes, hein, parce que ils considèrent ça comme une violence, parce que ils deviennent éligibles à ce fameux droit à mourir alors qu'ils veulent vivre, hein, et d'ailleurs c'était très touchant de voir ces handicapés profonds venir devant l'Assemblée manifester et exprimer leur désarroi devant ce projet de loi qui de fait, ben, ne tient pas compte des plus vulnérables, plus fragiles. On sait quel est l'argument qui est porté devant l'opinion publique par des lobbies extrêmement puissants, comme la DMD, d'ailleurs, M. Falorni, qui est le porteur de cette proposition de loi, est lui-même membre de la DMD, ce qui est quand même assez extraordinaire.
La DMD, pour ceux qui ne connaîtraient pas,
c'est l'association pour le droit, ouais, à mourir dans la dignité, donc ceux qui préconisent et qui font la promotion de l'euthanasie, parce qu'il faut aussi appeler les choses par leur nom, ce qui a été refusé. Dans l'opinion publique, on parle de suicide assisté, d'aide à mourir, mais on parle même pas de suicide assisté, on parle d'aide à mourir et de droit à mourir. Mais non, c'est vraiment l'euthanasie et le suicide assisté. Et donc, moi, je me dis qu'il y a encore du combat possible, parce que dans l'opinion publique, on parle très peu des soins palliatifs. On a très peu parlé du fait que, unanimement, sans doute certains pour ceux de bonne conscience, les députés ont voté pour cette énième loi des soins palliatifs qui n'est pas nouvelle, parce que les lois qui promeuvent les soins palliatifs et l'accès des soins palliatifs pour tous, ce qui n'est toujours pas réalisé, la première date de 1999. Et puis il y a la loi de Claes Leonetti qui permet, dans une souffrance dite réfractaire, eh bien de pouvoir demander une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc on a tout l'armement législatif qui évidemment coûte plus cher que l'euthanasie. Et donc on voit bien qu'il y a un mobile économique derrière, et c'est cynique d'une certaine manière pour les personnes les plus vulnérables. Non, il n'y a pas une seule alternative face à la souffrance d'un malade en phase terminale que l'euthanasie. Il y a les soins palliatifs et on a fait des progrès énormes dans ce domaine. À 99%, la souffrance physique peut être soulagée. Donc, et puis il y a un soulagement personnel qui dit à une personne, jusqu'au bout, ta vie vaut la peine d'être vécue, alors qu'on est dans cette culture du déchet, comme disait le pape François, et que ben, finalement un malade, une personne âgée, finit par se considérer comme complètement inutile et comme un poids pour la société. Donc c'est une mentalité qui progresse à cause de cette propagande de lobby qui veulent arriver à leur fin. Mais je vois quand même que une bonne partie des députés n'a pas voté en faveur de cette loi. Hein. Et il y a encore le Sénat, et puis il y a une deuxième lecture en Assemblée nationale, et puis c'est... Donc il y a encore un an et quelques qui peut se passer beaucoup de choses. Hein. Est-ce que le gouvernement tiendra jusque-là? Est-ce que l'Assemblée ne sera pas dissoute avant? On n'en sait rien. Toujours est-il que je vois, moi, le courage de ceux qui ont voté contre, parce que je pense qu'il y a des députés qui étaient prêts à voter contre, j'en connais au moins deux dans notre région proche, qui étaient sensibles à l'argumentaire qui leur était présenté, qui avaient même dit clairement qu'ils voteraient contre, moins dans l'intimité d'une relation avec telle ou telle personne qui était venue les rencontrer, et qui finalement votaient pour. Donc il doit y avoir aussi une pression, il faut reconnaître, au sein de l'Assemblée nationale, il y a des pressions qui tous les, je ne sais pas, jugement d'ailleurs, mais tous les députés n'ont pas forcément le courage de parler contre une discipline de parti ou contre un lobby qui est extrêmement, qui peut se faire menaçant.
En tout cas, l'Église a toujours du poids, on le voit, l'Église est vraiment rentrée dans le débat et elle peut continuer.
Voilà,
à faire.
Elle est rentrée dans le débat et elle a fait chorus avec tous ceux qui sont au service des plus fragiles et des plus vulnérables.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler de la vie du diocèse.
Radio Lapourdi Iratia, votre radio chrétienne en Pays Basque.
Monseigneur Ayen, nous terminons cette émission avec vous pour évoquer les différents événements du diocèse, événements passés et à venir. C'est en Béarn qu'on a fêté les 10 ans de la canonisation de Sainte Mariam Bawardi, Sainte Marie de Jésus crucifiée. C'était un moment important pour les Palois car elle a vécu une transverbération à Pau et vous avez assisté à la célébration pour les 10 ans de cette canonisation.
Voilà, si on célèbre les 100 ans de la canonisation de trois grands saints français, nous, dans notre diocèse, plus modestement, nous avons célébré les 10 ans de la canonisation de Sainte Marie de Jésus crucifié, et nous avons célébré les 10 ans aussi de la béatification du bienheureux Louis-Édouard Sestac. Donc, dans le Béarn, c'était Sainte Marie de Jésus crucifié, et au Pays Basque, même si c'est plutôt en Gascogne et Anglette, c'était le bienheureux Louis-Édouard Sestac. Donc c'est aussi des beaux événements, un anniversaire, c'est pas seulement pour se tourner vers le passé de manière un peu nostalgique, mais c'est voir que ce message est encore actuel pour aujourd'hui, parce que les saints entrent dans l'éternité et donc dépassent même l'époque dans laquelle ils ont œuvré, avec des grâces particulières que leur a prodiguées le Seigneur. Donc, Sainte Marie de Jésus crucifié, ce sont deux saints qui ne se ressemblent pas du tout. Sainte Marie de Jésus crucifié, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, c'est important parce que c'est une palestinienne, d'origine libanaise sans doute, mais elle est née en Palestine, en Galilée, et elle a terminé sa vie à Bethléem. Hein, donc, elle est un pont entre l'Orient et l'Occident, et elle est d'ailleurs la patronne de la paix au Moyen-Orient, donc qu'on peut invoquer très particulièrement en ce moment. Elle a vécu, elle, une sainteté de type très extraordinaire, avec des phénomènes mystiques rassemblés dans une seule personne, comme on a peut-être rarement vu dans toute l'histoire de la sainteté, dans toute l'histoire de l'Église. Elle a connu les extases, les stigmates, la transverbération du cœur, comme sainte Thérèse d'Avila, qui a été d'ailleurs constatée par les médecins en extrayant son cœur après sa mort. Son cœur était marqué par une cicatrice, hein, une grande cicatrice, comme si elle avait été traversée, il avait été traversé de part en part par une lame d'acier. Elle a connu des possessions démoniaques et angéliques. Elle avait des visions. Elle a été visitée dans ce Carmel de Pau par au moins 22 saints, je ne sais pas si vous imaginez, dont la Sainte Vierge évidemment. Et elle avait même un charisme de poésie alors qu'elle était analphabète. Elle ne savait pas écrire. Hein. Donc elle a connu des grâces mystiques insignes, bon. Mais tous les saints ne sont pas marqués par des phénomènes extraordinaires. D'ailleurs, Saint Jean-Paul II appelait la sainteté ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire qu'on rencontrera davantage chez un abbé Sestac, qui n'a pas été, lui, pourvu, doté de charismes extraordinaires, je veux dire, de phénomènes spectaculaires. Il était très marial, il était toujours conduit par la Vierge Marie. On sait cette rencontre qu'il a eue avec cette statue, la Vierge Marie en sa statue de son sanctuaire de Buglose, où il venait demander à la Vierge Marie 50 000 francs de l'époque dont il avait besoin pour acquérir un domaine et y réfugier ses prostituées repenties. Et la Vierge Marie, avant qu'il prononce sa demande, lui fait signe de se taire et dans son cœur lui dit « Ne me demande que mon esprit ». Et il n'a pas obtenu ses 50 000 francs de manière miraculeuse. Il les a obtenus petit à petit. Et quand on lui demandait, alors vous avez vu la Vierge ? Lui qui avait reçu des voyants de la Vierge Marie, celui de la Salette et d'autres, car il en était très très touché, il dit non, je ne la vois pas, mais je la sens comme le cheval sent la main du cavalier qui le conduit. Et il a toujours été conduit par la Vierge Marie, toute son œuvre a été remise entre ses mains, une œuvre colossale pour l'époque, hein, en mettant des talents humains particuliers, il avait des connaissances en agriculture qui étaient révolutionnaires, pour aller travailler la terre, le sable, des dunes de sable d'Anglette, où il a placé ses fameuses Bernardines. Bon, voilà. Mais il a fait beaucoup pour l'éducation, la promotion des filles, l'éducation des filles, leur rendre la dignité par une éducation, le travail, et pour les conduire à Dieu. Hein, parce que le but, évidemment, était de sauver leur âme.
Donc il a été béatifié il y a 10 ans ici même.
À la cathédrale de Bayonne. Le 31 mai, on s'en rappelle encore. Hein.
Oui. À Bayonne, son lieu de naissance, rappelons que le père Sestac parlait, même s'il a vécu beaucoup anglais en Gascogne, comme vous dites.
Mais il avait d'origine basque.
Hein. Mais il parlait le basque, il parlait le gascon, il parlait le français. Absolument. Et même l'espagnol.
Ah oui, tout à fait. Il est né rue d'Espagne, hein. Donc c'est pas loin d'ici. Il a été 25 ans vicaire et chanoine à la cathédrale de Bayonne. Et d'ailleurs, tout son charisme est né dans la cathédrale, dans son ministère pastoral le plus ordinaire. C'était les pauvres qui prenaient d'assaut son confessionnal. Les prostitués repentis sont venus se réfugier auprès de lui parce qu'il avait déjà une belle réputation de bonté et vraiment de ferveur et de sainteté, quoi.
Est-ce que vous savez s'il sera canonisé, s'il y a un dossier pour la canonisation?
Eh bien, il faut continuer à prier.
Il faut qu'il y ait un miracle.
Pour obtenir un miracle, c'est tout. Hein, voilà. Donc il faut, de temps en temps, ne pas l'oublier, lui demander quelques miracles.
Alors, Monseigneur Hayé, vous avez célébré le 8 juin, le dimanche de Pentecôte, les confirmations pour les adultes à l'ESCAR. Ils étaient très nombreux cette année, un peu dans la suite des catéchumènes de Pâques.
Alors, en fait, on a un tout petit peu plus de confirmés que l'an dernier. Donc, ça veut dire que ça fait la croissance s'est amorcée déjà l'an dernier. Donc, je crois qu'en tout, il y a 93 catéchumènes, que confirmants adultes, mais certains sont confirmés avec leurs enfants dans les paroisses. Il y en a eu à peu près 80 à l'ESCAR.
Alors, il y a bien sûr les confirmations en paroisse où vous-même, où vos délégués confirme à tour de bras en ce moment. Je crois que certains jours, vous avez même 3 confirmations dans la journée.
Oui, c'est arrivé. Il y a des week-ends où j'en ai 4. Voilà. Bon, mais donc c'est très bien. Hein. C'est toujours des événements très heureux parce que, d'abord, les enfants ou les adolescents ou les adultes, a fortiori, sont extrêmement disposés, préparés. Il y a une ferveur, il y a une beauté de la cérémonie qui fait que ça donne une certaine gravité, une certaine solennité à cet événement. Et puis les familles qui sont là, les fidèles qui assistent à cette ou qui participent à ces célébrations, ne sont pas forcément des piliers d'église, mais il y a une telle ferveur qui passe que les gens sont dans la joie. Je dois dire que c'est toujours une grande joie de donner ce sacrement parce que c'est un très beau sacrement, hein, le sacrement de la confirmation. Et quand on sort à la sortie, il y a une vraie allégresse, une joie paisible. Même ceux qui sont loin de l'Église sont très heureux d'avoir participé à cette. Ça fait plus partie de leur vie parce que l'organisation est un peu différente maintenant et puis que la société n'y porte pas non plus. Mais ils sont heureux d'être là. Et je pense qu'il y a des choses qui se passent dans le cœur des gens.
Selon vous, quels sont les fruits du déplacement de la confirmation de la 5e en CM2 ?
CM1. On continue de confirmer aussi des enfants de 5e, des enfants de 4e, de 3e, mais je pense que ça donne un peu plus conscience aux parents qui accompagnent davantage les petits, je pense, de l'importance du sacrement. Et je vois des parents qui demandent la confirmation à cause de la confirmation de leurs enfants. Donc, et puis moi, le fruit que j'y vois, c'est que quand ils seront en âge de se marier, ils seront confirmés. Alors qu'on a de moins en moins avec la méthode ancienne, si je puis dire, enfin, qui n'était pas si ancienne que ça d'ailleurs, parce qu'elle n'était pas très traditionnelle non plus, mais on avait de plus en plus d'adultes qui demandent le mariage, et ils ne sont pas confirmés.
Un dernier événement dans notre diocèse important pour nous, c'est les reliques de Sainte Marguerite Marie à la Coque qui vont sillonner le diocèse, qui ont commencé le 7 juin. Jusqu'à la fin du mois. Donc, reliques qui sont à Pau, à l'église Sainte-Thérèse, mais qui vont sillonner tout le diocèse jusqu'en Pays Basque. Donc, Sainte Marguerite Marie à la Coque, dont on fête les 350 ans de l'apparition du cœur de Jésus à cette sainte.
Voilà, c'est d'autant plus intéressant qu'on est marqué évidemment par la dernière encyclique du pape François sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus, donc Dilexit Nos, il nous a aimés, comme dit saint Paul. Et donc, nous accueillons, après avoir accueilli l'an dernier les reliques du cœur du Sacré-Cœur d'Ars, pour prier davantage en l'année de la foi et de l'appel pour les vocations sacerdotales, avec Sainte Marguerite Marie à la Coque, on va davantage prier pour les vocations à la vie consacrée. Les religieuses et les religieux, mais aussi les vierges consacrées. Enfin, il y a toutes sortes de formes de vie consacrée qui ne sont pas nécessairement religieuses, c'est-à-dire en communauté, sous une règle. Et c'est vrai que pour le 350e anniversaire, ben, c'est une grande grâce que de les recevoir dans notre diocèse. On aura deux reliquaires. Donc il y aura un reliquaire qui sera de manière plus permanente à Pau, à la chapelle d'adoration hein, de Sainte-Thérèse, et un autre reliquaire qui se promènera, si je puis dire, qui pérégrinera plus exactement dans notre diocèse, et on le recevra en particulier le 15 juin à la cathédrale de Bayonne.
Qu'est-ce que vous allez faire cet été, Monseigneur? Je sais que chaque année, vous participez au festival marial à Biarritz, c'est ce qui aura lieu cette année.
C'est ça, il y a une semaine mariale qui a lieu entre le 8 et le 7 et le 12 juillet, je ne sais plus très bien, à laquelle je participerai. L'an dernier, j'avais participé en faisant des petites causeries sur l'exhortation apostolique Evangelium Nuntiandi. Cette fois-ci, je parlerai de l'exhortation apostolique du pape Saint Jean-Paul II, Christi Fidelis Laici, hein, sur la vocation et la mission des fidèles laïcs dans l'Église.
Puis vous l'avez dit, donc vous allez participer au jubilé des prêtres, au jubilé des jeunes, donc avec le Saint-Père à Rome. En terminant, peut-être, comment être missionnaire cet été?
Ben voilà, en étant le plus disponible à tous ceux que l'on rencontre l'été, en particulier dans les familles, hein, il y a souvent des membres de la famille qui viennent sur notre côte basque, qui est quand même très attractive, dans notre pays du Béarn aussi. Hein,
et dans notre pays basque intérieur aussi, pour ne pas faire de jaloux.
Non, bien sûr, pays basque intérieur aussi. Et donc c'est l'occasion dans ces rencontres familiales, rencontres amicales, de témoigner paisiblement de sa foi. Hein, je pense que, comme dit Saint-Pierre, soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui en ont raison. Et on se rend compte de plus en plus, en rencontrant beaucoup de gens, que ce soit à travers les confirmations, les catéchumènes que nous avons préparés au baptême cette année, les couples qui se préparent au mariage, on rencontre aussi par les prêtres dans les paroisses que je visite, il y a une soif. Hein, d'ailleurs, le pape l'a redit aussi, qui sentait qu'il y avait une soif de spiritualité dans le monde d'aujourd'hui. Soyons des apôtres, répondons aux questions que les gens se posent en vacances. On se pose peut-être plus de questions sur le sens de sa vie, parce qu'on est un peu plus au repos, si on n'est pas dans la spirale infernale des loisirs, hein, comme pendant l'année dans les activités du travail professionnel. Et donc c'est l'occasion, en effet, d'emmener les gens à la messe. On va à la messe ensemble. Enfin, il y a plein de petits moyens d'évangéliser ceux que nous côtoyons et avec qui nous vivons pendant cet été.
Merci beaucoup, Monseigneur Marc Caillé. Merci à Violaine Ricourt-Dumas. Très bon été à tous nos auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées et de Radio Lapourdi Iratia. Merci.